Chapitre 12. Antoine. Nous grimpâmes le chemin jusqu'à la maison. J'allais frapper à la porte-fenêtre du séjour, mais sans perdre une seconde, Stéphane fila sur la droite pour contourner la maison. Ce fut lui qui réussit à piéger Yvette en la découvrant debout dans la cuisine. Il lui fit signe qu'il voulait lui parler et je la vis arriver pour nous ouvrir la porte-fenêtre, manifestement très gênée. Elle me fit entrer sans un mot tandis que Stéphane me rejoignait.
Yvette, je ne comprends pas. Que t'arrive-t-il ?
Au lieu de me répondre, elle fondit en larmes. Stéphane se précipita pour lui approcher un siège sur lequel elle s'effondra. Je me mis à genoux près d'elle et tentai de la calmer.
Il m'a fait promettre !
Commença-t-elle entre deux sanglots. Puis elle ajouta :
Il m'a dit qu'Antoine est vivant. Il va me le rendre. Mais il le tuera si je parle.
Nous ne comprenions rien à ces bribes d'informations. Henriette finit par nous rejoindre. À force de nous attendre sans comprendre ce qui se passait, elle s'était décidée à retrousser sa jupe droite et à passer elle aussi par-dessus le portail. Nous poussâmes Yvette dans le salon et nous l'installâmes dans le canapé. Henriette et Stéphane disparurent un moment dans la cuisine et revinrent avec des tasses et du thé chaud. Yvette finit par se calmer et nous raconta tant bien que mal que la nuit où nous avions failli mourir en mer, Jean-Claude Martin, après avoir laissé sa voiture sur le parking devant son bureau, avait fait à pied les quelques centaines de mètres qui séparaient la société de la maison des Mauniers. Il était venu sonner et s'était présenté devant Yvette, tremblante de peur. Il lui avait expliqué qu'il était coincé et qu'il avait besoin de lui emprunter sa voiture. Ne sachant comment réagir, elle l'avait laissé faire à sa guise. En partant, il avait ajouté qu'il savait où se trouvait Antoine et qu'elle avait intérêt à ne rien dire à personne si elle voulait revoir son mari vivant. « Si tout se passe bien, tu le reverras dans quelques jours. Il n'est pas bien loin d'ici », lui aurait-il dit en partant pour la rassurer. Depuis, Yvette était restée enfermée chez elle, ne répondant plus ni au téléphone ni à la sonnette du portail pour ne pas prendre le risque de dire ce qu'elle ne devait pas dire. Elle attendait ainsi dans l'angoisse le retour promis de son mari. Elle se remit à pleurer et il fallut de nouveau la calmer. « Où sont tes enfants ? » lui demandai-je. « Dans un tel cas, leur place serait près de leur mère. »«
Ils ne sont pas là. Ils sont partis faire la Corse avec des copains. »
« Alors j'ai une idée pour que tu ne sois plus seule, » dis-je. Mais Henriette se retourna vers moi et déclara d'un ton sec. « Emmanuel et Stéphane, vous sortez de l'hôpital, vous devez vous reposer. Il est hors de question que vous jouiez les gardes-malades. Je ne suis pas bien maligne, moi, de vous avoir emmené ici. J'aurais dû me douter que vous ne seriez pas raisonnable. »
« Mais Henriette, répondis-je, je suis bien d'accord avec toi, et ce n'est pas à moi que je pensais. Je pensais à mes parents qui paient une chambre d'hôtel en ville, alors qu'ils seraient bien mieux et beaucoup plus utiles ici. Enfin, si Yvette est d'accord. » « Bien sûr que je suis d'accord, je ne veux plus rester seule, c'est trop dur. Je veux qu'on me ramène Antoine. »
Depuis le téléphone fixe d'Yvette, je pus enfin joindre mes parents à leur chambre d'hôtel. Étant passés à l'hôpital, puis chez Stéphane, et n'ayant trouvé personne, ils se demandaient ce que nous avions bien pu devenir. Je les rassurai, puis je réussis à les convaincre de venir s'installer ici, en leur expliquant combien Yvette avait besoin d'eux. En les attendant, je continuais à interroger Yvette, qui, me semblait-il, ne nous avait pas tout dit. Je me lançai dans une vraie plaidoirie pour lui prouver qu'à l'inverse du discours de Jean-Claude Martin, c'est en nous disant tout ce qu'elle savait qu'elle avait le plus de chances de retrouver son mari. Après avoir bien réfléchi, elle nous avoua que Jean-Claude Martin avait marmonné un nom, Francesco, mais qu'elle n'avait pas compris ce qu'il voulait dire avec ce nom. Nous nous regardâmes, Stéphane et moi. Francesco, il devait y en avoir des dizaines, voire des centaines sur la côte. Nous étions bien avancés. Mais Henriette réfléchissait.
« Je crois que je connais ce Francesco. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu, mais c'était en quelque sorte l'homme de main de Jean-Claude Martin. Un Espagnol, un ancien repris de justice, je crois. Un gars qui n'a peur de rien et ferait n'importe quoi pour une belle somme d'argent. Jean-Claude Martin avait plusieurs fois utilisé ses services, notamment pour se faire payer par des clients récalcitrants. Francesco devait avoir des méthodes persuasives, car il revenait toujours avec l'argent. Mais ça fait un bon moment qu'il n'a pas réapparu. « Et tu sais où il habite ?»« Pas très loin, quelque part sur la côte, je crois. Il a peut-être changé d'adresse, mais en fouillant dans les archives du patron, on pourrait peut-être le retrouver. » Mes parents arrivèrent enfin. Après avoir visité et admiré la maison, maman prit possession de la cuisine et se mit en devoir de préparer un dîner chaud pour tous ceux qui en voudraient. Je racontai à papa les derniers rebondissements de l'affaire avec l'entrée en scène du dénommé Francesco. Henriette était partante pour aller immédiatement fouiller le bureau de son patron dans l'espoir de retrouver le téléphone, l'adresse ou tout au moins des indications sur cet homme. Mais elle tenait à ce que Stéphane et moi allions nous reposer. Elle partit donc chez Martin et Monnier avec papa, tandis que je m'allongeais sur un canapé à côté de Stéphane. Maman s'affairait au fourneau et Yvette mettait la table pour se changer les idées. À l'instant où maman posa sur la table une grosse marmite de spaghetti à la carbonara, nos deux limiers revenaient de leur perquisition. « Nous avons trouvé !» s'exclama Henriette. Le carnet d'adresse du patron traînait au fond d'un tiroir de son bureau. Francesco ne figurait pas directement dedans, mais il était mentionné sur une feuille volante glissée entre deux pages. Il habiterait Villa des Rêves Bleus, route départementale 437, Le Lavandou. Ton père a tout de suite téléphoné à ses collègues pour qu'on y envoie une voiture. « Il faut y aller, » dis-je. « N'oublie pas que tu sors tout juste de l'hôpital, que tu n'es venu là que pour prendre des nouvelles d'Yvette et que tu vas filer dans ton lit. » « Henriette a raison, » dit maman, « c'est très imprudent. Toi et ton Stéphane, oubliez un peu vite d'où vous revenez. Vous avez besoin de beaucoup de repos, le médecin l'a dit. » « Je te promets de me reposer autant que tu le voudras, » répondis-je, « dès que nous aurons retrouvé Antoine. » « Moi aussi, je promets de me reposer à côté d'Emmanuel autant qu'il le faudra, » ajouta Stéphane. « Ils ont peut-être raison, » dit papa qui réfléchissait. « On ferait peut-être bien d'y aller. » Maman leva les yeux au ciel mais ne répondit rien. Après quelques minutes de discussion animée, il fut convenu qu'Henriette, papa, Stéphane et moi partirions sans délai pour le Lavandou. Qu'Yvette avait eu suffisamment d'émotions et maman, qui ne les recherchait pas spécialement, resterait. Maman exigea que nous avalions deux ou trois spaghettis avant de partir. L'estomac lesté, nous sautâmes tous les quatre dans la voiture de papa et nous partîmes sans même répondre à maman qui voulait nous proposer un dessert. En été, la route de la côte est toujours encombrée, nous perdîmes du temps et il faisait presque nuit quand nous arrivâmes à la Villa des Rêves Bleus. Une voiture de police, garée devant le portail, nous attendait. Un des deux policiers vint tout de suite vers nous. S'adressant à papa, il déclara « Bonjour, inspecteur, la villa est déserte, l'oiseau ou les oiseaux se sont envolés. Mais la maison devait être encore habitée il y a deux ou trois jours. » « Vous avez vraiment tout vérifié, il ne peut y avoir personne de caché. » « Pas de cave, de grenier, de cabane de jardin ou de passage secret quelque part ?»« Non, on n'a rien trouvé, mais venez avec nous, vous pourrez vérifier. »« Et vous n'avez pas déniché de papier, du courrier, des notes, des factures, un mot, une carte de visite ?»« Non, rien. Des vieux meubles, des vêtements d'hommes, quelques revues et quelques réserves de nourriture. »« Rien qui puisse nous donner une piste ?»« Rien. » Mais ça ne fait qu'une heure que nous sommes là et nous ne savons pas trop quoi chercher. Peut-être qu'une enquête dans le voisinage pourra nous apprendre quelque chose. Mais pour aller sonner tout autour, c'est un peu tard, il faudra attendre demain matin. Nous nous lançâmes à l'assaut de la petite maison. C'était une construction légère, de plein pied, carré, comportant une cuisine, un séjour, une chambre et une salle de bain. Il n'y avait pas grand-chose à voir. Le tout fut vite fait. Il n'y avait pas de sous-sol, la maison étant construite sur le rocher. Une trappe donnait accès aux combles qui se révélèrent parfaitement vides. Une toute petite cabane de jardin ne contenait qu'une dizaine d'outils et du matériel de pêche. Nous étions un peu désappointés. Même si Jean-Claude Martin était venu là retrouver son ami Francesco et qu'ils aient fui ensemble, nous n'avions aucune indication sur leur destination. Quant à ce pauvre Antoine, il n'était évidemment pas là. L'avaient-ils emmené dans leur fuite comme otage ou s'en étaient-ils débarrassés? Le mystère restait entier. Il faisait maintenant nuit noire. Fallait-il rentrer ailleurs ou passer la nuit ici, dans l'espoir de trouver de nouveaux indices à la lumière du jour? Nous en étions là de nos réflexions quand un cycliste mit pied à terre au portail. Il appuya son vélo contre la grille et lentement, pas après pas, il s'avança vers la maison. C'était un jeune garçon. Il marchait avec une visible hésitation. Comme nous sortions à sa rencontre, il nous lança de loin. « J'ai vu la voiture de police, alors je me suis approché. » « Alors, c'était bien des bandits ?» Avant de lui répondre, mon père lui signifia de venir jusqu'à nous et d'entrer dans la salle de séjour qui était éclairée. Il était essoufflé et tout en sueur suite à sa course à vélo. Il devait avoir une quinzaine d'années, les cheveux courts et le regard franc. Il portait un short et un t-shirt de couleur claire. Il parlait avec un petit accent du midi. « Bonjour, reprit-il. Alors, c'était bien des bandits qui s'étaient installés là ?» « Il y a bien des chances, » dis-je évasivement, surprise par l'apparition inattendue de ce nouveau personnage. J'avais un peu l'impression de me trouver en face d'un diable à ressort qui vient de sortir de sa boîte. Je lui demandai « Comment t'appelles-tu »« Philippe, mais on dit Phil ou Fifi. »« Tu as pu voir quelque chose ?»« Bien sûr que je les ai vus. J'habite au dernier étage de l'immeuble qu'on voit là-bas, en face. » Mes parents m'ont offert une longue vue à Noël, alors je m'amusais à surveiller cette villa parce qu'elle a un air louche. Surtout le proprio, il avait l'air d'un vieux mafioso comme dans les films. Alors il était toujours à brasser des affaires, à trafiquer des trucs. Alors je m'étais imaginé que c'était un bandit qui se planquait là après avoir fait un gros coup. Fifi s'arrêta net. Il nous regarda l'un après l'autre comme s'il se demandait si son récit nous intéressait. « Continue, s'il te plaît, ton histoire nous intéresse beaucoup, » dis-je pour l'encourager. Des yeux, il fit le tour de l'assistance, et convaincu qu'on ne se fichait pas de lui et qu'au contraire, on attendait tous impatiemment la suite de son récit, il reprit. Ce gars-là, avec son vieux break, il était toujours à charger ou décharger des choses, le matin très tôt ou en pleine nuit. Alors je le surveillais de loin avec ma longue vue. Mais je n'ai jamais pu deviner ce qu'il pouvait y avoir dans ces paquets. Je n'ai jamais osé venir voir de près. Et même, en passant à vélo sur la route, je ne voyais pas grand-chose. Alors ce soir, quand j'ai vu la voiture de police arrêter devant, j'ai pensé que je n'avais plus rien à craindre. Alors je suis venu voir. Ce gars en question, il était toujours seul ? En général, oui. Mais la semaine dernière, une grosse BMW noire est venue. Elle est venue le soir, quand il faisait presque nuit. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Elle est restée une heure ou deux. Après, elle est repartie. Mais il s'est passé quelque chose il y a 3 jours. Enfin, ça devait être la nuit ou très tôt le matin. C'est vrai, vous êtes bien renseigné. Alors, il y a 3 jours, quand je me suis réveillé vers 6 heures, il y avait une petite voiture verte garée devant le portail. Le proprio, une jolie fille et un autre homme, celui de la BMW, je crois, était en train d'y mettre des paquets. J'ai repéré aussi la cheminée qui fumait, qui fumait. C'est bizarre, une cheminée qui fume en été. Je ne sais pas ce qu'ils y brûlaient, mais ça en faisait de la fumée. Alors très vite, ils sont montés dans la voiture verte et ils sont partis. On aurait dit qu'ils avaient le feu aux fesses. Tout ce que tu viens de nous dire est très intéressant pour notre enquête, dit mon père. On te demandera de répéter tout cela avec tous les détails dont tu pourras te souvenir et on l'écrira pour ne rien oublier. Après, on te demandera de signer ta déposition. D'accord ? Oui, si vous voulez. Une dernière question. Nous recherchons un troisième homme. Celui-là n'est pas un complice, ce serait plutôt l'otage des deux autres. Nous avons fouillé la maison de fond en comble, mais nous n'avons rien trouvé. Tu n'aurais pas une petite idée ? Le jeune Fifi resta quelques secondes en silence, réfléchissant profondément. Enfin, il dit « Alors, Peut-être à la cabane.
La cabane de jardin, nous avons regardé, mais elle est toute petite et il n'y a que des outils.
Non, la cabane de berger, celle qui est dans le vallon, au-dessus de la maison. En plus, c'est vrai que le bandit y montait de temps en temps.
Ce doit être une capitelle, une cabane en pierre.
De chez moi, je n'aperçois que le haut du toit.
Allons voir, tu peux nous guider ?
Dans la nuit, ça ne va pas être facile, mais si vous avez des lampes...
Papa avait une lampe torche dans sa voiture, mais elle n'avait plus de piles. Heureusement, les deux policiers avaient chacun la leur.
« Et ça ?» cria Philippe en allant récupérer sur la cheminée une grosse lampe torche abandonnée par les fuyards. Coup de chance, elle fonctionnait parfaitement. Nous sortîmes par le portail et nous prîmes à 20 mètres un sentier à peine tracé qui remontait la colline en suivant la clôture de la villa. Le jeune garçon marchait devant, cherchant le passage avec la grosse lampe qu'il avait trouvée. Il était suivi de mon père et des deux policiers. Je marchais derrière eux, puis venaient Stéphane et Henriette. Deux fois, il fallut faire demi-tour, le chemin s'égarant dans la pierraille. Mais au bout d'une demi-heure de recherche, j'entendis un cri de triomphe.
« Là, elle est là !»
C'était effectivement une capitelle, une petite cabane de berger en pierre sèche qui ressemblait à une sorte d'igloo. Papa entra le premier, suivi d'un policier. Ne résistant pas à ma curiosité, je me faufilai pour entrer à leur suite, me doutant bien qu'il n'y aurait pas de la place pour tout le monde à l'intérieur. Dedans, il fallait se tenir courbé ou à genoux. Éclairé par les lampes, je vis un homme allongé sur le dos qui paraissait inanimé. Papa s'était accroupi pour l'examiner de plus près. Je ne pus me retenir de demander à voix basse
« Il est mort ?»
Non, le cœur bat toujours, mais faiblement. Il a sans doute été drogué et abandonné là. Mais j'ai l'impression qu'il souffre de déshydratation. Il faut l'évacuer au plus vite vers un hôpital. Papa sortit pour appeler les secours avec son téléphone portable. J'en profitai pour m'approcher de l'homme. Il avait la barbe et les cheveux en broussaille, les joues creuses et ses yeux semblaient avoir disparu au fond de leurs orbites. J'eus beaucoup de mal à reconnaître Antoine, qui n'était pourtant pas au mieux de sa forme quand je l'avais rencontré à la maison. Vu l'urgence et les difficultés d'accès, ce fut un hélicoptère qui vint pour emmener Antoine Monnier à l'hôpital. Il nous fallut baliser le lieu avec nos 3 torches électriques pour guider son approche. Et comme, à cause des arbustes qui occupaient le terrain, il ne put se poser, il fallut élitreuiller le pauvre homme dans une civière. Après la manœuvre, alors que l'hélicoptère s'éloignait, papa déclara « J'espère qu'il s'en tirera. » En tout cas, déclara Henriette plus optimiste, « Nous pouvons nous féliciter d'avoir fait tout notre possible. »
« Contre ton avis, d'ailleurs, lui fis-je remarquer.
« Peut-être, mais j'espère que maintenant vous allez le suivre, mon avis. Je vais m'occuper de vous reconduire au lit tous les deux et vous allez y rester un moment. On ne galope pas comme ça dans la nature quand on sort de l'hôpital et qu'on a failli mourir d'épuisement 3 jours plus tôt. » Henriette n'avait pas tout à fait tort. Dans le feu de l'action, j'avais foncé sans retenue, puisant sans mesure dans mes faibles réserves d'énergie. Et là, tout à coup, la tension retombant, je sentis mes jambes plier sous moi, la terre tournait, je dus m'asseoir par terre pour ne pas tomber. Au bout de quelques minutes, je rouvris les yeux. Papa me releva et me fit grimper sur son dos comme quand j'avais 2 ans. Quel plaisir pour moi de retrouver ces sensations d'enfance, de sentir la solidité de mon père et d'avoir la preuve que j'étais encore assez mince et légère. Stéphane était plus solide que moi, mais il ne paraissait pas bien vaillant non plus. Il n'avait personne pour le porter et il dut marcher jusqu'à la voiture. Sitôt le moteur en route, nous nous endormîmes tous les deux l'un contre l'autre, sous le regard attendri d'Henriette. Maman fut ravie d'accueillir son équipe victorieuse en compagnie d'Amélie et d'Ursula qui étaient venues la rejoindre. Papa repartit immédiatement avec Yvette pour l'accompagner à l'hôpital au chevet de son mari enfin retrouvé. Henriette complota avec maman pour que nous restions nous reposer sous bonne garde chez Yvette et que nous n'allions pas nous installer chez Stéphane où elle se doutait que nous ne serions pas restés tranquilles. Si on vous laisse seuls tous les deux, vous êtes capables de repartir aussi sec sur les traces de Jean-Claude Martin et compagnie, et Dieu sait où on vous retrouverait et dans quel état. » Comme des enfants bien sages, nous dûmes obéir et nous installer sur deux lits côte à côte dans la chambre d'amis des Mauniers. L'état de santé d'Antoine fut jugé préoccupant par les médecins à son arrivée à l'hôpital.